Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, les confidences de Luc Besson. Le réalisateur s'est confié à Stéphane Woodstock depuis Los Angeles. Enfant terrible, c'est le titre du premier tome de son autobiographie. Musique, nous découvrirons avec Steven Bellery une des révélations de l'automne, la chanteuse Marie Flore et son album Braquage qui vient de sortir. L'auteur Kauter Hadimi confirme son statut de valeur montante du roman français. Elle nous présentera son nouveau livre, Les Petits de décembre, aux côtés de Bernard Lehu. Et puis avec Isabelle Morini-Bosque, eh bien nous avons joint la comédienne star de France 3, Corinne Massiro, qui reprend du service ce soir dans Capitaine Marlowe. On parlera également de la nouvelle saison de La France. Un incroyable talent qui démarre sur M6.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Et pour commencer donc, les confidences de Luc Besson. Stéphane Woodstock, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour tout le monde.
Vous avez joint le réalisateur en exclusivité radio pour RTL chez lui à Los Angeles à l'occasion de la parution chez XO Éditions de son autobiographie intitulée Enfant terrible.
Ouvrage publié alors que Luc Besson, on le sait, traverse une période difficile, faisant face à la fois à la réouverture des investigations sur les accusations de viol et aux soucis financiers de son entreprise, EuropaCorp. Enfant terrible est avant tout un ouvrage passionnant sur son enfance, sa jeunesse et ses premiers pas dans le cinéma, puisque le récit s'arrête après Le Grand Bleu en 1988. Sur la couverture, une photo de lui, enfant, blondinet, au regard à la fois naïf et frondeur. J'ai demandé d'abord à Luc Besson s'il se reconnaissait toujours en ce petit garçon, un demi-siècle plus tard.
J'ai pas changé. Ouais, il y a complètement les bases. Ouais, non, c'est sûr. J'ai l'impression de m'être reconnecté un peu avec ce petit garçon que j'étais. Les tourments de la vie, du star system, des paillettes, de l'argent, du pouvoir, tout ça vous écarte de ce petit garçon. Et j'ai fait un beau travail cette année pour le retrouver. Je suis bien, bien heureux de l'avoir retrouvé.
Et si vous le croisiez aujourd'hui, ce gamin, Luc, sachant tout ce qui va vous arriver après, de bien et de pas bien, vous lui diriez « change pas de route, c'est toi qui as raison ?»
Non, je lui dirais « je comprends ta peine, je comprends ta solitude, mais ça va pas s'améliorer. » Il va falloir que tu t'y fasses.
Alors cette bio, on l'a dit, tombe à un moment compliqué dans la vie et la carrière de Luc Besson. Le livre est-il directement lié à ça ou est-ce un projet plus ancien?
Ça fait 3-4 ans qu'on me demande souvent d'en écrire une. Ça ne m'intéressait pas trop. Et puis j'ai peur de commencer à oublier un peu en fait. Voilà, j'ai perdu mon papa il n'y a pas très longtemps et ma maman est encore en bonne santé. Mais bon, ça m'a semblé être le bon moment. Puis récemment, il y a un an ou deux, il y a un crétin qui a fait une biographie sur moi et sincèrement je comprends pas quelqu'un qui avait fait une bio sans rencontrer la personne, sans rencontrer personne de sa famille, sans aucun de ses amis. Je trouvais ça assez déplacé, donc au moins Luc Besson je l'ai rencontré, je le connais bien et je me sentais peut-être un peu plus légitime à l'écrire en tout cas.
Est-ce que vous racontez, Luc, à travers ces pages, ça vous a aidé aussi à faire face à des choses moins sympathiques qui vous arrivent?
Oui, bien sûr, hein. Je trouve que la vie, souvent, vous entraîne vers quelque chose qui vous ressemble avec le temps de moins en moins. Ça fait du bien de reconnecter avec soi-même, avec ses proches.
Alors Stéphane, que découvre-t-on dans ce livre qui peut nous aider à comprendre qui est vraiment Luc Besson aujourd'hui?
D'abord, une enfance chaotique, celle d'un gamin pas vraiment désiré ni accepté, ballotté au gré des engagements de ses parents, animateur sportif dans des clubs de vacances en Grèce ou à la montagne, gosse solitaire qui va trouver auprès des animaux ses seuls vrais amis. Alors on croise le chien Socrate, un poulpe avec lequel il s'amuse lors d'une plongée et évidemment les dauphins qui plus tard deviendront son emblème. Comme si Luc Besson nous disait que les animaux, eux, sont à la fois fidèles et sans arrière-pensée.
Ils sont souvent premier degré. À cette époque-là, je dois avoir à peu près 8 ans. Les adultes sont très préoccupés par eux-mêmes parce qu'ils sont en vacances pendant 15 jours, donc ils veulent en profiter. Les autres, mes parents y compris, travaillent, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de moi non plus. Et on erre un peu tout seul comme ça dans un club de vacances et j'ai trouvé ça hallucinant qu'un dauphin de 200 kilos soit en réalité le seul être qui est capable de venir vous regarder en pleine mer et de rester avec vous une heure, alors que personne ne me donnait une heure à cette époque-là. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Les animaux n'ont pas ces préjugés-là. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas d'où vous venez. Mais la plupart du temps, ils sont curieux, ils viennent et ils partagent. C'est une leçon qu'ils nous donnent.
Et puis ce sont les débuts au cinéma, alors d'abord en tant qu'assistant sur les plateaux, puis le court-métrage et le premier film, Le Dernier Combat en 1983. Et dès le début, des relations, on va dire, compliquées avec la presse. Ça dure toujours d'ailleurs. J'ai demandé à Luc Besson si c'était encore une blessure.
Non, c'est pas une blessure en fait. C'est un malentendu depuis le départ parce qu'on n'est pas sur la même échelle. Moi, je fais des films par amour et vraiment avec mon cœur à fond. Il y a des journalistes qui font la même chose, certains, et puis pas d'autres. Ce que j'aime bien, c'est les hommes du président. Moi, je veux voir des vrais journalistes qui font vraiment leurs vraies enquêtes, qui ne courent pas après Internet pour être les premiers à dire quelque chose, même si c'est faux. Voilà.
Mais est-ce que vous pensez sur le fond qu'une partie de la presse vous en veut et que ce qui vous arrive depuis quelque temps a été amplifié justement ? Est-ce qu'il y a une... On va pas parler de complot parce que le mot n'est pas approprié, mais est-ce que ça a été aussi amplifié à dessein, à votre avis ?
Non, je pense que c'est juste de la vente. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Ils mettent ce qui fait vendre. Ils réfléchissent pas plus que ça. Dommage.
Alors, je vous l'ai dit, Enfant Terrible s'arrête après la sortie du Grand Bleu, il y a 30 ans. Question simple, pourquoi ?
Le Grand Bleu, c'est un vrai changement. D'abord parce que le film a été hué, a mal démarré. C'était vraiment, j'ai eu ce sentiment pendant quelques jours que ma carrière s'arrêtait. Et puis les gens en ont décidé différemment. Les spectateurs ont commencé à aller voir le film de plus en plus. Le film est resté 60 semaines à l'affiche. Il est devenu un phénomène. Tout le monde voulait le voir. Ça m'a sauvé la vie. Et puis, ça m'a surtout ouvert des perspectives complètement nouvelles. C'est-à-dire que j'ai payé toutes mes dettes et j'ai d'un seul coup eu de l'argent devant moi. Je me suis retrouvé avec des sous. Donc, j'ai vite acheté un appartement en me disant, au moins j'aurai un toit. Mais à partir de là, c'est vrai que tout a changé. Puisque quand je rentrais dans un bureau de production en disant... Je vais faire un film sur un boulon qui tombe amoureux d'une tranche de foie de veau. Tout le monde disait, c'est génial. Le problème, ça a été de commencer à s'habituer à ça, à ce pouvoir-là et comment on le gère en essayant de rester avec les pieds sur terre. Et c'est en fait une autre vie qui a démarré, une vie plus compliquée en fait. Voilà. On a à la fois beaucoup plus d'amis, mais beaucoup plus d'ennemis. Et je n'étais pas très bien préparé à ça, en fait.
La suite de cette bio sortira d'ici 2 ou 3 ans, m'a dit Luc Besson. Elle s'appellera cette fois-ci Enfant gâté.
Alors, est-ce qu'il a quand même des projets de cinéma ?
C'est vrai que la période est compliquée, mais apparemment, ce n'est pas l'envie qui lui manque de retrouver les plateaux.
Oui, j'ai toujours envie, un peu moins, parce que j'en ai plus besoin. J'ai encore quelques films dans la tête que j'aimerais bien faire, parce que je trouve que c'est des beaux films, mais j'en ai plus besoin. Mes premiers films, c'est une question de survie.
À l'heure où on se parle, Luc, est-ce que vous avez déjà un projet ou est-ce que tout est un peu suspendu, gelé, en fonction de ce qui se passera d'un côté pour votre entreprise, Europacorp, et puis sur le plan judiciaire ? Est-ce que ça freine les choses et vos envies ?
Les envies, non. Est-ce que ça freine les choses ? Oui, bien sûr. Mais tant que ça les freine et que ça ne les arrête pas, ça va. J'ai beaucoup écrit là depuis un an. J'ai dû écrire 3-4 scripts. Donc il y en a un qui est bien, qu'on est en train de monter ici, parce que le film est assez gros. Et voilà, ça se passe plutôt pas mal.
Vous l'entendez, hein, le temps est plutôt serein, détendu. J'ai terminé en demandant à Luc Besson, qui a eu 60 ans cette année, tout simplement, comment il allait ?
Oui, je vais assez bien. J'ai perdu pas mal de poids. J'essaie de m'occuper un peu de moi, de me retrouver, de retrouver ma famille surtout. Et ça fait du bien. Et puis je pense que, comme vous l'avez souligné, j'ai passé la soixantaine, donc on arrive quand même à un stade un peu différent de sa vie. On est un peu plus calme et confiant tant que j'ai pas de maladie, oui.
Et sur ce qui peut vous arriver dans les mois qui viennent sur un plan plus judiciaire, là aussi vous êtes confiant ?
Je ne fais pas de commentaires par rapport à ça, mais vous pouvez appeler mon avocat, s'il vous plaît.
Voilà, donc ça c'est une autre histoire, un autre domaine. Si c'est le cinéma qui vous intéresse, vous serez passionné par Enfant Terrible. L'autobiographie de Luc Besson, donc publiée chez XO Éditions, entretien radio exclusif à retrouver en intégralité sur RTL.fr.
Il vous a tout dit, c'était Stéphane Boutsock. A tout de suite pour la musique avec Steven Benry.
RTL, laissez-vous tenter. RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Polyvalente et compacte, la citadine Mitsubishi Spacestar 5 places bénéficie de toute la fiabilité Mitsubishi Motors économique. Avec ses 4,6 litres au 100, la Spacestar Mitsubishi est en plus garantie 5 ans. Spacestar Mitsubishi, la ville devient facile.
RTL. T'es devant ton Mac ?
Citroën.fr. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous allons parler musique à présent. Avec vous, Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
C'est l'une des révélations de l'automne. Elle s'appelle Marie-Flore et son album Braquage vient de sortir. C'est un de vos coups de cœur. Hein. Vous avez rencontré la chanteuse.
Marie-Flore a la trentaine, un regard bleu acier rehaussé d'une frange, une silhouette gracile. Elle a grandi en banlieue parisienne après quelques années dans la mode et un album en anglais en 2014. La voici qui éclot dans ce deuxième disque en français. Exemple avec M'en veux pas.
Eh ouais, je fais de la peine à voir. Depuis que j'ai le cœur sur le départ, depuis que c'est réduit l'écart. En entre lui et moi hier soir. Contre le bar, chérie, oh, je fais de la peine à boire. Depuis que j'ai le cœur sur le départ. Mais tu sais comme il est si rare d'aimer si vite sans crier gare. M'en veux pas.
Braquage est un album auto-fictionnel en 12 morceaux. Abrasif Marie-Flore raconte une récente histoire d'amour bancale et destructrice. Elle, qui a étudié 8 ans le violon alto au conservatoire, jette ses pensées sur des beats électro. L'amour des mots qui claquent est survenu un peu plus tard.
L'écriture est arrivée à l'adolescence. J'ai commencé à écrire mes premiers textes en français, puis très rapidement en anglais parce que ma culture musicale a toujours été anglophone. Et après, je me suis mise au français en 2017, je crois, 2016 peut-être.
Par erreur, par choix, par obligation?
Pas par obligation, parce qu'un directeur artistique m'avait conseillé de m'y essayer. Et du coup, j'ai écrit.